Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport, la dernière heure, on est ensemble avec Fred Weiss, avec Pascal Duprat, avec Jérôme Pinault et Marc Madiot. Évidemment, on va retourner dans quelques instants sur les routes du 24 heures du Mans. Il ne reste plus que 4h53, plus que 4h53.
ou encore
4h53. Non mais c'est quand même, pour le coup... Bon, évidemment, ils sont relais, hein, on rappelle, hein, c'est pas un pilote qui conduit pendant 24 heures, hein, pour les néophytes total. Fred, hein, je te le dis, parce que depuis tout à l'heure, tu te disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Seulement 24 heures.
Seulement 24 heures, non, mais voilà. Alors, vous êtes très nombreux à nous écouter, hein, je sais qu'on nous écoute, par exemple, en préparant, tiens, j'ai Cyril qui me dit, je suis parti pour une sortie de 3 heures dans les terrils du Nord pour préparer les 90 km du Mont Blanc. Ah oui, d'accord, bah, quand même. J'ai également une auditrice qui nous disait, je vous écoute en construisant un gros Lego pendant 3 heures, vous allez m'accompagner.
C'est quoi comme Lego?
C'est Lisa. Lisa, une voiture Lego, la Ford Black et la Ferrari SF90. Eh, ça prend du temps.
Incroyable.
Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr. Mais moi, j'aime bien
dehors.
J'aime bien savoir. Bah, il fait pas beau dehors partout, peut-être. Hein. Mais pourquoi pas? J'aime bien ce dimanche matin. Tu te réveilles, c'est un petit puzzle. T'écoutes Marc Madiot. Tu finis ta Ferrari. Voilà. Et puis d'un coup, il y a Fred Weiss qui part. Oh, mais voilà. Vous tout recommencez. Allez, je vous rappelle, évidemment, vous pouvez nous rejoindre en fin d'émission pour participer au jeu du sport. Aujourd'hui, vous pouvez gagner un séjour dans un des 400 campings Homer, des campings 4 à 5 étoiles situés en France ou en Europe. Hein. Vous voyagez selon vos envies de 2 nuits à 1 semaine. Jusqu'à combien de personnes, Fred?
6.
Jusqu'à 6 personnes, hein, ça fait quand même.
On peut y aller, nous, en tant que GG, on peut y aller.
Ah, hein, on problème. Est combien là? 1, 2, 3, 4, 5? Ouais.
Ouais.
Ah, bon. Il reste plus facilement
que ça. Prod.
Plus Kylian, on prend Kylian avec nous.
On prend Kylian plutôt que Christophe, ouais. Oui, je pense.
Bon, bah écoutez, très bien. Ça veut dire qu'on prend pas Christophe avec nous. Moi, ça m'arrange, hein, ça va me calmer. C'est horrible. J'en ai profité d'envoyer des balles à Christophe.
Il
n'est pas là.
Frigo, moi, Christophe.
Allez, évidemment, pour remporter, appelez le 32-16 touche 4. Hein, vous allez jouer avec vos GG et envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Dans un instant, on va parler des Bleus, hein, à 2 jours de France-Sénégal. Tiens, juste, je parlais des 24 heures du Mans. Clément Brossard, il reste 4h51 et c'est reparti après une grosse session de voiture de sécurité. Hein.
Exactement, beaucoup d'ambiance derrière moi parce que je suis au sein du circuit, pas loin du virage du Tertre Rouge, un des virages les plus dangereux évidemment, où Alan Simonson notamment a perdu la vie à 34 ans, c'est en 2013. Le suspense toujours aussi intenable sur cette 94e édition. Il reste 4h51 de course et la safety car a un peu rebattu les cartes. On parlait des écarts très très serrés depuis cette nuit, et bien c'est encore le cas, et peut-être encore plus puisque la BMW numéro 20 est leader à une seconde d'avance seulement sur la Cadillac, et les 6 premières voitures se tiennent tout simplement en 19 secondes exactement. Les mêmes 6 premières voitures se tiennent en 22 secondes, et on peut même aller jusqu'à l'Alpine qui est 7ème, la numéro 35. On se rappelle aussi qu'Alpine dispute sa dernière saison en tant qu'endurance, hein. Ils arrêteront à la fin de cette saison là, et bien ils sont en train de réaliser une belle course. On n'est pas à l'abri d'autres safety cars parce qu'il y a la fatigue qui commence à arriver. Il y a beaucoup de chaleur, mais suspense insoutenable à BM.
On est en plein cœur grâce à toi des 24 heures du Mans, et ça se joue à la photo finish cette histoire. Ça va être impressionnant, évidemment. Ce sera 16h, hein, à l'arrivée. Ne manquez pas ça. 94e édition de la course la plus mythique du sport automobile au monde. Voilà, je le dis comme ça. Bon, non, mais enfin, c'est le cas, hein, de toute façon. Allez, tout de suite, on ouvre la porte du vestiaire.
Pour les Français. RMC, le vestiaire des GG.
Oui, Donald Trump va dire que c'est plutôt les 500 miles d'Indianapolis.
Pour les Américains, c'est les 500 miles. Ouais. Pour les fans de F1, c'est Monaco.
Il y a le Grand Prix Monaco, ouais, c'est ça, exactement. Alors, les GG, cette semaine, ce qui m'a intéressé, c'est le début de l'aventure des Bleus au Mondial, évidemment, pour le plus longtemps possible. On l'espère, évidemment, ça peut durer un mois s'ils vont au bout. Et on a entendu les mots de Kylian Mbappé à M6 cette semaine, d'expliquer que c'est pas toujours facile mentalement de vivre en groupe, en fait, pendant tout ça. Bah, en vrai, ça nous parle à tous, hein. C'est dans la vie de tous les jours, on partait en groupe avec 30 personnes. C'est pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour savoir que c'est pas toujours facile. Il a dit ceci: dans les deux Coupes du Monde que j'ai eues, il y a eu des moments où socialement j'étais carrément incompatible, parce que tu restes enfermé pendant 60 jours, même si c'était facile, tout le monde jouerait une Coupe du Monde si c'était facile. Donc voilà, il parle aussi de ces moments d'intimité où c'est vrai qu'on en parle assez rarement, qui sont importants aussi dans la construction d'une victoire, par exemple. Et déjà, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Comment on vit en groupe pendant un mois. Comment on vit avec Fred Weiss pendant un mois? Non mais
c'est pas moi qu'il faut demander.
Eh ben regarde, la compagne est au téléphone avec nous 32. Tu vas jamais un mois chez toi parce que tu travailles trop.
Voilà, c'est ça. Merci.
Fred, non mais en vrai, bah toi par exemple, tu avais vécu les Jeux Olympiques à Sydney. Oui. On vit en vase clos. On vit. Vous étiez à l'hôtel.
Oui, j'imagine. Oui, bien sûr. Oui, oui.
Non mais ça fait partie de la performance aussi. Hein. Il faut que ça marche bien.
Oui, il faut que ça marche bien. Mais en plus, nous, je sais pas si c'est le cas dans tous les sports, mais nous, on mange ensemble tout le temps. En plus, on a des horaires très précis, on arrive tous ensemble, on repart tous ensemble, on est habillés de la même façon. Donc, j'avoue que parfois, ça peut être pesant. Mais réellement, il y a très peu de moments où tu échanges avec les autres. Donc, effectivement, il y a des repas, ah ouais, il y a des entraînements, mais le reste du temps, il faut juste bien choisir ton partenaire de chambre. Quand t'as un partenaire de chambre, parce que parfois t'es tout seul, mais quand tu as un partenaire de chambre, faut juste bien choisir. Faut savoir que il se couche à la même heure que toi, il se lève à la même heure que toi, il a faim au petit déjeuner à la même heure que toi, et il aime les mêmes choses. C'est-à-dire les jeux vidéo. Moi, je suis plutôt fan de jeux vidéo, donc quand il aime les jeux vidéo, c'est encore mieux. mais malheureusement, tu peux pas choisir. Réellement, moi, vivre en groupe, c'est très ponctuel, c'est vraiment sur des épiphénomènes de la journée. Encore une fois, les repas principalement. Mais moi, il m'est arrivé de quasiment pas parler à certaines personnes pendant les Jeux Olympiques.
Ah ouais?
Ben, je leur parlais soit passe-moi le sel, soit passe-moi le ballon. Vraiment, j'alternais un petit peu entre les deux et c'était à peu près suffisant.
C'est ton côté insociable.
Mais, ouais. Non, mais c'est vrai que je suis pas très sociable quand même.
Ça dépend.
Ouais. Ça dépend des moments. Mais réellement, t'as l'opportunité de pouvoir t'évader quand même. Une nouvelle fois, il faut que tu choisisses bien ton coéquipier. Parce que lui, tu vas être là avec lui tout le temps, tu vas dormir avec lui.
C'était qui ton gars sûr?
Moi, c'était Cyril Julien. On était ensemble tout le temps. En plus, ce qui est paradoxal, c'est qu'on était plutôt concurrents sur le poste. Malgré tout, on s'entendait extrêmement bien. Et c'est vrai que on avait un mode de vie qui était très similaire. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Je ne comprends pas ce que dit Kylian Mbappé, mis à part les contraintes de manger ensemble, et moi ça me dérange pas, je peux ne pas parler pendant un repas, donc ça me pose aucun souci.
T'asseoir à côté de celui avec
qui tu parles. Voilà, mais tu t'assois à côté de ton coéquipier de chambre, nouvelle fois, donc avec qui tu échanges tout le temps, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. T'as toujours des sas de décompression où tu peux aller manger à droite, à gauche avec tes coéquipiers, parce que c'est pas tous les jours.
Oui, pour certains, ça peut être oppressant la vie de groupe en permanence, effectivement.
Non, parce qu'il y a ces sas où tu peux te permettre d'aller manger. Ouais. De temps en temps, les coachs et les managers sont pas fous. Ouais. Ils savent que c'est trop long. C'est une période où on n'a pas le droit du tout de sortir ou d'aller manger ou d'aller faire des choses.
C'est pour ça que
ils nous laissent ces périodes.
C'est pour ça que le camp de base là est important à choisir. On regarde aujourd'hui, l'équipe de France est logée à Boston en plein centre-ville. Je vois mal Kylian Mbappé faire une petite balade à pied dehors. Tu peux pas faire ça.
Tiens les gars, je vous laisse, je vais faire une petite course à l'épicerie là.
Tu peux pas.
Nous les chips.
Nous dans le tour, quand on était coureurs ou même nos athlètes, Marc en tant que manager, ils peuvent sortir le soir, faire une balade à pied autour de l'hôtel. On peut être embêté, quoi. Ils sont anonymes.
Toi, tu faisais ça? C'est vrai que vous, l'équivalent, c'est Tour de France.
Moi, j'ai fait ça. Alors, nous, la différence, c'est que on est habitué dans notre métier à partir longtemps et vivre en groupe, puisque les stages, ça dure longtemps. Les courses à étapes, c'est toujours au moins une semaine. Donc, tu es déjà en groupe et un mois sur le tour. Tu peux t'autoriser à, moi ça m'est arrivé de mettre un jean, une chemise et de dire journée de repos, je vais faire un tour, je vais manger au resto plutôt
en
que de
civil,
manger
quoi.
Avec des...
T'avais besoin d'être habillé en Jérôme Pinault, l'homme et pas le coureur.
Sortir de la bulle du tour, sortir du. Voir les gars en jogos,
tout le temps habillé pareil, tous. Mais vraiment, c'est un camp de vacances quand on se déplace en équipe de France. C'est-à-dire qu'on est tous habillés pareil. Ça, par contre, ça c'est affreux.
Moi, c'est pas le mot. C'est pas le mot. Non, je suis pas d'accord.
Non,
ça donne une unité.
Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est affreux dans le sens où le faire tous les jours pendant un mois, t'as envie de faire comme Jérôme Pinault, mettre une veste, une chemise, etc., et aller draguer, aller sortir, etc., quoi.
Non, mais Marc, t'acquiesces ce que disait Fred tout à l'heure sur il faut choisir son ami de chambre, on va dire, son coéquipier, son colocataire, son roommate. Mais c'est déterminant.
Oui, mais ça se fait naturellement. En cyclisme, par exemple, les premiers stages qui précèdent la saison au mois de décembre et en janvier, on provoque le mélange des nouveaux et des anciens à travers le coéquipier de chambre. C'est-à-dire qu'on demande à tel ancien de se mettre avec tel jeune pour l'intégrer dans la vie de l'équipe et pour accélérer la connaissance des uns avec les autres. Après, progressivement, au fil de la saison, les affinités s'étant identifiées, les coureurs, notamment, se mettent par affinité. Et c'est tant mieux. Je trouve que c'est la meilleure formule parce que.
C'est toi comme manager, t'insistes pas pour dire allez mélangez-vous
tout le temps. Non, au début, premier rassemblement.
C'est l'utopie ça parfois de se dire le groupe vit bien et les mecs ils sont tout le temps ensemble. Il faut qu'ils soient ensemble tout le temps.
Premier rassemblement, je pense que c'est une bonne, c'est la bonne option pour que tout le monde fasse l'effort d'échanger et de se connaître. Mais une fois que la saison est lancée, je trouve que pour la qualité du repos et pour la vie en communauté, vaut mieux être avec quelqu'un avec qui on a des affinités ou des habitudes de vie. Par exemple, l'habitude de vie, c'est je suis couche tôt, t'es couche tard. Essayons de mettre deux gens qui se couchent tôt ensemble. Voilà, c'est plus sur ces affinités-là. Et elles se font, j'ai envie de dire, très naturellement et progressivement.
Toi, quand t'étais coureur, t'étais avec qui?
Bah, moi, j'avais un frère qui faisait du vélo avec moi. Donc, naturellement et facilement, on faisait chambre ensemble. Il connaissait mes défauts, je connaissais les siens. Et on se complétait. Donc, on avait habitude de vie ensemble. Mais après, il y avait plein de petites anecdotes qui faisaient qu'il y avait des choix à effectuer. Parce que moi, j'ai connu l'époque où dans les hôtels, dans les chambres, il y avait un grand lit et un petit lit.
Ah mais ça oui, bien sûr.
Il y avait le petit lit.
Tu vois, c'est l'avantage d'un mec de mon gabarit.
Toute ma carrière,
moi, j'avais toujours le grand lit.
Toute ma carrière, le petit lit. Ton copain de chambre, il est comme toi.
J'ai toujours été éduqué avec Didier Rousse. Le grand lit, on le laisse au leader, au patron.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Donc moi, déjà, tout mon début de carrière, Didier Rousse, bon, allez, j'arrivais dans les hôtels, on en connaissait une chaîne d'hôtels où t'étais sûr d'avoir même le dépliant, donc t'étais dans le dépliant, tu cherchais pas.
Et ensuite,
en grandissant, j'étais avec Sylvain Chavanel, le leader aussi. Donc Sylvain, moi j'ai passé plus de temps avec Sylvain qu'avec ma femme et mon ex-femme à l'époque, et Sylvain, il avait toujours le grand lit, lui. Moi, j'ai toujours dormi dans le petit lit. Mais par contre, on avait les mêmes habitudes. Il y avait qu'une chose, et moi je me souviens de pétage de plomb de Sylvain quand il était un peu fatigué et qu'on avait ras-le-bol parce qu'on parle du Tour, mais il y a aussi les classiques. Quand on parle dans les classiques du Nord, on reste quasiment 3 semaines dans le Nord. C'était le côté bordélique. Moi j'étais un vrai bordélique et Sylvain était au carré, et je me souviens des fois de péter les plombs pour dire mais il y a c'est un bordel dans cette chambre, alors on mettait une demi-heure, on se parlait plus, chacun rangeait ses petites affaires pour repartir mieux le lendemain. Mais ça c'est quasiment des études de vieux couple.
C'est des petites vides comme
On part à 20, 25, mais en fait, on vit avec 3, 4 personnes.
Oui, c'est ça.
Vraiment.
Tu choisis qui tu veux côtoyer le plus.
Par exemple, sur le Tour de France, les coureurs mangent ensemble. L'encadrement est décalé par rapport aux coureurs, par rapport au travail à effectuer le soir après les étapes.
Avec les nouveaux services camion, resto et cuistot, ils mangent même pas tous ensemble.
Parfois, ils mangent même pas dans la même salle que
l'encadrement. Mais c'est pas grave, ça? Faut pas que tout le monde mange
ensemble. C'est dommage. C'est dommage. Chez nous, par exemple, on mange dans le même lieu, dans la même salle que les coureurs.
Pascal, tiens, comment vivre en groupe pendant un mois? T'as fait les stages de pré-saison, notamment. C'est les grands stages dans l'équipe de foot. Comment tu gérais ça, toi, l'entraîneur?
C'est comparable à ce que vous êtes en train de dire. Les premiers stages, donc, de pré-saison, vous avez de nouveaux joueurs, faut les intégrer. Donc, au départ, vous faites en sorte que les anciens les prennent sous leur coupe. Et puis ensuite, les affinités vont faire qu'il y a des groupes qui se forment. Mais en tout cas, de ce que je connais, on est plus à se rassembler pendant ces périodes-là. Il y a vraiment le travail foncier qui est effectué. C'est souvent des doubles séances, voire triples dans la journée. Mais on s'attache, le staff, à préparer des activités de telle sorte que justement tout le monde puisse bien vivre ensemble.
Tu sais quoi, voilà,
par exemple, des tournois de poker, les joueurs ils partagent ensemble. Nous, ils restent pas tout seuls dans leur piole tout le temps.
Je vais loup-garou.
On faisait loup-garou, nous.
Je sais pas, quand tu vas en stage, souvent nous on allait en stage, je suis le Mont d'Arbois à Megève, dans un pays magnifique, on fait du VTT, du rafting, du bike and run. Moi j'ai organisé des compétition de bike and run.
Est-ce que l'entraîneur se mêle aux activités de temps en temps, justement?
Quand j'avais la pêche, je me mêlais. Ensuite, un peu plus vieux, moins. Bon, quelquefois, un coup, j'avais fait un bike and run. C'était deux vélos de mecs à pied, et puis ils interchangeaient une course qui faisait une vingtaine de kilomètres. On est partis les premiers. C'était les temps scratch. On avait bien fait les choses, quoi. Ça, donc, j'ai triché.
Ça triché
en tant que coach. j'ai camouflé le marquage au sol et ils sont tous partis tout droit, alors fallait aller à droite. Mais ils m'ont défoncé. Quand on est arrivé à l'hôtel, quand ils ont su que c'était moi qui avais triché, ils m'ont défoncé. Ils avaient raison de me défoncer. C'était aussi pour leur montrer qu'on était avec eux. Voilà. Il y a aussi des moments légers
Ce sont des moments importants pour la performance.
Ce sont des périodes très importantes pour créer un groupe pour la performance. Après, moi, quand j'étais manager de l'équipe, ce qui me rassurait le soir en sortant de table, c'est de voir mes coureurs discuter ou faire une activité ensemble dans le lobby de l'hôtel.
Oui, bien sûr.
Parce que
bien
tu peux faire tous les team building que tu veux, si quand tu rentres en compète et dans les moments difficiles, parce qu'il y a forcément des moments difficiles, trois minutes après
tout le, monde est dans
le dîner, tout le monde est à sa chambre, c'est tu dis qu'il y a un problème. Ça, c'est vrai. C'est bah,
souvent,
ce sont des vrais repères.
Mais
dans notre équipe, nous avions des Tony Parker, des Boris Diaw, qui nous faisaient jouer au loup-garou. Alors au début, je disais, j'ai une partie de jeu vidéo sur le feu, j'ai envie de vous gonfler, les gars. Sauf qu'à la fin, eh ben, tu prends au jeu, et c'est vrai que ça crée des liens, parce que en fait, tu te rends compte de comment chacun joue, justement, comment certains comme Pascal trichent pour gagner, etc. Tu sais à qui tu peux faire confiance. Pascal, maintenant, c'est.
Moi, je me souviens
de
toi, loup-garou.
Moi, je sais mentir de ouf.
Je me souviens de moments dans ma carrière où, à la fin de ma carrière, j'étais dans une équipe suisse, Yam Cycling, et on était en stage pour ce genre de team building. Donc on a fait des activités en commun, etc. Et le soir, il a fallu que le patron nous dise, on fait une réunion pour se parler. Et moi, j'ai pris la parole ce jour-là, parce que j'étais le capitaine de cette équipe, et j'ai dit, voilà, regarde, la problématique, c'est que tu peux faire toutes les activités ensemble que tu veux. Si toi, aujourd'hui, Michel, Teta, à l'époque qu'on salue, qui était le partenaire principal et le patron de l'équipe, ne nous dit pas, on reste là, on se parle. J'ai regardé tous mes coéquipiers, notamment certains, et je leur ai dit, mais si Michel dit pas, faut être là, vous êtes pas là.
Vous êtes pas là,
vous êtes sur votre ordi. Donc ça, en fait, ça va dépendre aussi de la personnalité. Mais tu sais, le mec qui part trois minutes après son dîner, avec qui tu as pu plaisanter pendant le dîner, et qu'une fois l'obligation dîner est finie et qu'il rentre dans sa chambre, lui, tu sais que le jour où t'es dans la merde, c'est pas lui qui va venir te chercher.
Il va pas t'aider, quoi.
Non, mais tu disais, il y a des leaders, Marc. C'est quoi, des gens qui vont prendre la parole quand il y a des moments un peu moins bons?
Il y a des leaders de vestiaire, il y a des leaders à table.
Ah oui?
Bah oui.
Il y a aussi des leaders pour faire les conneries. Hein.
Aussi.
C'est souvent les mêmes.
Moi, je faisais partie de ceux-là. Ça fait partie de la vie d'une équipe.
Il y a des leaders pour faire les conneries, Marc, aussi?
Ah oui.
Il y a, sur le Tour de France, il y a eu des histoires. T'es pas obligé de donner les noms.
Oui, bien sûr. Dans un temps qui s'éloigne, fort heureusement.
Une époque.
Je me suis quand même une fois retrouvé avec mon directeur sportif adjoint Martial Gaillan, être en voiture et à explorer un petit peu tous les rassemblements qu'il pouvait y avoir autour de la vie du Tour de France en soirée.
Un coureur était parti à un rassemblement festif.
On supposait qu'il était parti à un rassemblement festif, mais on avait une mauvaise pensée parce qu'en fait il n'était pas avec des gens dans un endroit festif. Il était sur le bord du port dans une ville bretonne avec une partie des sponsors.
Mais bon, il faisait la fête, quoi.
Il avait pris la petite liberté de.
C'est grave.
Non, in fine, c'est pas grave. Après, faut pas que ça se répète trop.
Oui, c'est
souvent,
ça, en fait.
Il faut pas que ça devienne.
Par exemple,
Pascal.
Moi, j'avais. En fait, je fonctionnais en tant que manager beaucoup sur la responsabilisation, donc sur la confiance. Et quand on partait en stage d'avant-saison, moi, il n'y a pas de couvre-feu. Ils ont quartier libre. Par contre, ils savent que le lendemain matin, à 6h45, il faut qu'ils soient au petit déjeuner.
J'ai jamais
eu un souci. Ouais. C'est-à-dire que de temps en temps, ils partaient par petits groupes, ils allaient manger une glace, boire un verre.
Pascal.
Mais même si je ne l'ai pas su, toujours est-il que je ne l'ai pas vu et je ne pense pas que ça ait fait du mal. Moi, la seule consigne que je leur donnais, je ne veux pas avoir de problème, je ne veux pas les flics nuit qui me réveillent parce qu'il y a un problème. Ouais. Voilà. Il y a aussi une chose qu'il faut considérer, c'est quand vous partez longtemps comme ça en stage, on parle beaucoup des joueurs là, mais il faut aussi penser à tous les staffs qui bossent comme des fous, le staff technique, le staff médical. Bon, ça fait beaucoup de monde en fait, et ces gens-là, il faut qu'ils soient tous les jours frais et dispo, avec la banane. Donc c'est important de diversifier, on va dire, les activités, de pas qu'ils ressentent cette mise au vert prolongée. comme une punition, quoi.
Voilà, c'est... Marco a envie d'ouvrir le tiroir aussi.
Il me rappelle une histoire qui va vous faire marrer.
On a l'antenne, hein.
Oui, bien sûr.
Ne brise pas des familles et tout ça.
On était en stage en région parisienne et on était en plein hiver, au mois de décembre. Et il y avait du givre, donc les voitures étaient un peu couvertes de givre. Et puis la veille au soir, avec Martial, on pistait un de nos coureurs. On supposait qu'il allait s'échapper pendant la nuit. Et donc on le surveillait et il s'est pas échappé. Lui, il était dans son lit, il dormait. Et puis au petit matin, on s'est rendu, je sais pas, j'avais une intuition à 6 heures du matin. J'ai dit tiens, je vais aller faire un tour sur le parking. Je vais sur le parking, toutes les voitures étaient couvertes de givre, sauf une. Et on avait identifié trois coureurs qui n'étaient pas dans leur chambre sur le coup de 23h. Donc j'arrive au petit déjeuner, je prends mon petit déjeuner tranquillement, puis je regardais les coureurs défiler qui venaient s'installer pour prendre leur petit déjeuner. Et j'en vois deux, les trois lascars un peu chiffonnés, prennent leur petit déjeuner et dans la foulée, on devait partir à l'entraînement, faire une sortie et on arrive dans une grande grange où tous les vélos étaient exposés. Donc les coureurs arrivent, mettent les chaussures, les couvre-chaussures, prennent leur vélo et se préparent à partir. Je dis là, stop ! J'ai deux mots à vous dire. Alors donc j'avais, je sais plus, 25 coureurs autour de moi. Je dis voilà, j'ai deux mots à vous dire. Toi, vous rentrez dans vos chambres, vous faites votre valise, vous rentrez chez vous.
Ah ouais.
Là, ils se sont décomposés. Et je leur dis, vous savez pourquoi ? Alors, il y en a un qui veut s'excuser, l'autre qui est... Il y en a un autre qui veut dire, mais qu'est-ce que je vais dire à ma femme ? Et le gars, il est resté en stage assez frais dans un hôtel à côté.
Et moi, j'ai la...
Vous savez quoi ? J'étais tranquille toute l'année.
Nous, dans le même ordre d'idée, moi, j'ai vécu la période la plus belle en vie de groupe.
Toi, je te vois bien
2002-2006. Et là, c'était fabuleux. Et 2002-2003-2004, avec l'équipe de Jean-René Bernadot et de Philippe Rimbaud à l'époque, on fait un stage à Nantes. Erreur. À l'époque, l'équipe était composée de garçons qu'il fallait pas trop les chauffer. Rousse, Beneteau, Renier, Gélin, Pinot, évidemment. Et on arrive au premier stage à Nantes en novembre. Et à Nantes, chez moi. Donc on sort, évidemment. Tout le monde est un... Allez, bonne nuit, on y va. Franck Renier, à l'époque, avait un grand véhicule, 9 places. Donc on est tous partis. On part et évidemment ça part fort. On rentre pas de bonheur, stage d'entraînement quand même. Hein. Et sur le parking, qu'est-ce qui nous prend parce que ça finit, on en a jamais assez. Beneteau met la musique à bloc.
Pas Beneteau, le tennisman.
Non, Walter, à qui on pense. Il est et on est sur le parking, on met la musique à bloc, ça danse, ça chante. Et Philippe Rimbaud par la fenêtre ouvre le rideau, nous voit faire, ne dit rien. On va se coucher. Le lendemain, au petit-déj, Philippe était le manager de l'équipe. Il nous dit « Ça va ? Ouais, nickel. » Il dit « Aujourd'hui, il y a une séance d'entraînement de prévu. » Ouais. Donc, il y a 3 heures pour le groupe 1 et 2. Et puis, pour lui, donc la bande de la veille, ça va être 5. Et on avait tellement un groupe solidaire, un groupe soudé.
Tout le monde a fait 5 heures ?
Tout le monde a fait 5 heures.
Oh là là, mais c'est comme les soldats qui se préparent.
Bon, on s'est fait engueuler par les autres quand même. Parce qu'on n'est pas prévenu qu'on était parti.
Comment on vit en communauté dans le sport de haut niveau pendant un mois, Fred Le Bonafin ?
Moi, juste pour terminer, j'ai une petite histoire aussi. Je suis en équipe de France junior.
Ah, vous confiez petit à petit,
Je finis équipe de France junior et je rejoins les moins de 22. Donc, je suis surclassé, je les connais pas, etc. Qualification au championnat d'Europe de l'année suivante en moins de 22. Et donc, premier match, on gagne et les gars me disent, on sort. Donc, on sort. À un moment, je regarde ma montre. Il est 5h du matin, je dis, les gars, il faudrait peut-être rentrer. Il dit, tranquille. Je dis, pourquoi tranquille? Ben, retourne-toi. Et en fait, derrière, c'était le coach qui était avec nous, en train de boire des coups. On est resté une semaine, on se couchait tous à 6h du matin. Et l'objectif, c'était de rentrer après le coach. Parce que le coach rentrait très tard déjà. Et puis, encore plus tard, on se donnait rendez-vous au petit-déj, tu vois.
Vous avez été performant?
On a été qualifié.
Oui. Incroyable. Bah, écoutez, on va voir. Non, mais c'est vrai, souvenez-vous, on a plein d'histoires comme ça. La Coupe du Monde 2018, quand la France gagne en Russie. Il y a l'histoire de l'extincteur d'Adil Rami là dans l'hôtel. C'est un moment qui a formé un peu le groupe aussi. Donc c'est des moments importants.
Mais pendant les compètes, ça arrive. Donc, nous, on a fait compète de karting, la dernière étape du Tour de France en 2010.
Faut juste pas faire.
Et le lendemain,
quoi.
Dans l'équipe, c'était marqué. L'équipe de Quick Step s'est détendue, a été faire un karting à Bordeaux. Bon, ça avait moins plu au patron à l'époque, Patrick Lefebvre, qui nous avait mis une petite cartouche. Ah non, non, il
avait avec la photo de
Jérôme. Non, il n'y avait pas de photo, mais par contre, le lendemain dans le bus, c'était moins la fête. Mais on l'avait fait. On avait fêté notre tour.
Allez, on referme la porte du vestiaire. Comment vivre en groupe pendant un mois? Vous écoutez évidemment ça en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Faites pas trop de bêtises, hein, les Bleus, hein, à Boston. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'en centre-ville, franchement.
C'est compliqué.
Ils vont faire quoi? Ils vont faire un cache-cache dans l'hôtel? Ils vont jouer au Uno? Super. Bon, ça va.
Au loup-garou.
Dans la vie, hein. Loup-garou.
Vous êtes mec qui ment. Au loup-garou, ouais. Les gars.
Bon, écoutez, je crois que je viens de comprendre. Fred Weiss a très envie de faire le jeu loup-garou sur Canal+.
Ben, évidemment.
Donc, il vient de porter sa candidature. Ce qui se rajoute à sa candidature pour Fort Boyard. Ce qui se rajoute à sa candidature pour Interville.
Mais Fort Boyard, tu passes pas dans les ports, dans le fort.
Mais ah, c'est si, vrai, ça. Mais
non. Ben, justement, je passe nulle part, moi.
Si, sur le toit de Fort Boyard. Tu peux sauter l'élastique dans un flotte, si tu veux.
Il n'y a pas de toit, Fort Boyard. Allez, on revient dans un instant sur Arabe.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Marc Madio, Fred Weiss, Pascal Duprat et Jérôme Pinault. Ça vivrait bien en groupe, ça. Comment on vivrait en groupe pendant un mois, les grandes gueules du sport?
Je serais pas inquiet.
Ouais. Pourrait y avoir des tensions parfois. Hein.
Je pourrais y avoir des tensions. On pourrait s'adapter.
On pourrait s'adapter. Bah, vous imaginez quand on fait des jeux avec Christophe, à chaque fois il pète un plomb tout de suite.
Ouais, mais
faut pas jouer.
Je pars dans 15 jours, un mois avec Christophe Cessieux, ça se passe très bien.
Ah, moi avec Christophe sur le Tour de France, on se prenait la gueule une fois. Très fort, après c'était terminé.
Ah oui?
Ah oui, mais après on repartait.
Pour le repas.
Hein?
Pour le repas du soir.
Non, parce qu'on prenait pas sur la moto, ça me
rendait. Il est en train de nous dire qu'il a pris un coup de vieux.
Ah, non,
ça je l'ai connu à une autre époque.
Ah?
Je l'ai connu à une autre époque.
C'est bien. J'adore quand on dit les choses sans les dire. Événement sur Arabe, c'est, je vous rappelle, hein, vous pouvez gagner la prime de match. Actuellement, le montant de la prime est de 39 500 euros. Je vous rappelle qu'on ajoute 500 euros par but marqué à chaque match de la Coupe du Monde. Donc, restez bien à l'écoute. Et au moment du top inscription, vous aurez 10 minutes pour envoyer but au 7-32-16. Mais d'abord, J-2 avant France-Sénégal. Premier match des Bleus à la Coupe du Monde. On parle beaucoup de Mbappé depuis quelques jours, mais ne l'oubliez pas, il y a aussi le Ballon d'Or. Double vainqueur en titre de la Ligue des Champions dans cette équipe.
RMC, les GG sur le buzzer.
Il était une fois un homme qui pouvait devenir invisible.
Si je regarde comme ça, on ne voit plus.
L'accélération de Dembélé, assez discret. En deuxième période,
je croyais que c'était une blague. Seulement, c'est ce qui m'est arrivé.
On me voit, on ne voit plus.
Ousmane, en ayant fait ce qu'il a fait avec le PSG, il faut redescendre aussi, récupérer physiquement et psychologiquement.
On ne voit plus, on me voit.
7 buts seulement pour
c'est
Dembélé.
C'est pas exceptionnel.
Il n'a jamais marqué en grande compète avec l'équipe de France. Donc en 58 matchs, c'est sûr que le ratio, il n'est pas énorme.
C'était un petit galop d'entrain pour lui aujourd'hui. Pour être prêt pour le 16.
On me voit, on me voit plus. On voit un peu, on me voit plus.
Les sportifs ont beaucoup d'humilité. Pourquoi ? Parce que rares sont les domaines d'activité où tu te remets en question presque journellement.
C'est vrai qu'on se remet pas assez en question journellement. À méditer. Demain, il faut se remettre en question, du coup, oui. Parce que c'est chaque jour, parce que c'est journellement. je vous
plus
pose la question.
Plus souvent hebdomadairement.
Ouais.
Plus. Ouais. Moins zèlement aussi. Mais journellement, moins.
Moi, ouais.
Bizarrement,
ça se dit. Ça fait beaucoup de remises en question. C'est vrai, ça se dit, on va vérifier quand même.
Bah, vérifier.
Je l'ai joué au Scrabble l'autre jour, on ne va pas accepter. Hein. Alors, les GG.
Ça m'étonnerait.
On est à J-2. Sénégal, non, mais parce que c'est. Oublie pas qu'il trichait avec ses joueurs.
Ah, mais c'est vrai.
Est-ce que les Bleus ont absolument besoin d'un grand Dembélé? Oui ou non? Absolument, les mots ont un sens. Marc Madio.
Ah, si tu dis absolument, je vais te répondre non, mais si on enlève absolument, on a besoin de lui, on a besoin de tous les joueurs.
Jérôme Pinault.
Non, absolument non.
Pascal.
Bien sûr que oui.
Fred.
Non. Et j'ai vérifié, journellement existe.
C'est vrai?
Oui.
Bien sûr.
Donc, Pascal, je suis obligé de te donner la parole en premier. Vous vous appelez au 32-16. Pour toi, les Bleus ont absolument besoin d'un grand Mbappé? D'un grand Dembélé, décidément.
En fait, on en a, comme d'habitude, parce que tu es un vrai pro, on en a parlé hier. Donc, lorsque tu nous appelles.
Je prépare les émissions avec vous.
Mais en fait, oui. Comme ceci, on a l'impression qu'il est plus important que Mbappé face à un grand mondial que Dembélé. Mais cela dit, si on veut bien raisonner force individuelle, intrinsèque de l'équipe de France, plus les joueurs seront performants et plus on aura de chance de voir l'équipe de France aller loin dans la compétition. Donc Dembélé, il échappe pas à la règle. Et si Dembélé fait un une grande Coupe du Monde est davantage décisif qu'il ne l'a été dans toutes ses sélections, parce qu'il a marqué peu de buts finalement en équipe de France par rapport aux sélections qu'il a connues. Et c'est le gage d'une équipe de France qui offensivement va exploser tout le monde. Donc pour cette raison-là, je dis oui, si Dembélé fait un mondial incroyable, si Mbappé fait un mondial incroyable, ils en ont les possibilités.
Ah bah c'est sûr.
Si Olise fait
on a besoin de tout le monde, je pense qu'on est tous d'accord.
Bah oui.
Mais est-ce que c'est si déterminant que, parce que c'est vrai que voilà, Jean-Louis.
Bah, à moins que tu veuilles ménager le suspense, Georges. C'est-à-dire que, qu'on n'écrase pas la concurrence, si tu veux que le suspense, à ce moment-là, Dembélé.
Est-ce si déterminant dans les performances? Non, mais il y a une différence entre transparent et grand Dembélé. Ouais, c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire, il n'est pas assez protagoniste peut-être en équipe de France, on a vu ses statistiques. Effectivement, c'est 7 buts en 59 sélections. Mais est-ce si important, finalement, que Dembélé soit le même que celui du Paris Saint-Germain, Fred?
Ben non, mais c'est surtout que ça nous a déjà réussi comme ça. Pour moi, celui qui est déterminant, absolument déterminant, c'est Mbappé. Après lui, c'est une variable d'ajustement.
La France a besoin d'un grand Mbappé.
Pour moi, c'est une certitude. Mais par contre, un Dembélé, bien sûr que c'est mieux que s'il est très bon, évidemment. Et ça c'est enfoncer les portes ouvertes. Mais on l'a vu, on l'a constaté, que même quand il a été moins bon, moins performant, ou en tous les cas, moins impactant avec l'équipe de France, on a fait des résultats. Donc,
plus joueur d'équipe aussi, donc moins besoin d'être le grand protagoniste.
Moins besoin de ça, et c'est surtout que c'est ce type de joueur capable d'être très bon quand il y a besoin, mais quand il y a un peu moins besoin, il peut se mettre un peu en retrait. Donc moi j'aime beaucoup ce type de joueur, et je suis pas certain qu'il ait besoin d'un très grand Dembélé. C'est mieux, évidemment, mais c'est pas nécessaire.
Jérôme.
Moi c'est l'un de mes joueurs préférés sur un terrain, parce que c'est un garçon qui est doué, qui a les deux pieds, c'est un génie. En revanche, je pense que dans son c'est le mot absolument.
C'est l'absolument parce que
c'est un garçon qui est excellentissime lorsque l'équipe va bien, mais c'est pas un garçon qui va prendre un match à son compte. C'est pas un garçon qui est un meneur. C'est pas Mbappé. Et je suis d'accord avec Fred. On a absolument besoin d'un grand Mbappé pour gagner la Coupe du Monde. On n'a pas absolument besoin d'un grand Dembélé. Un bon Dembélé, tu peux quand même gagner la Coupe du Monde. Parce qu'il va être excellent quand l'équipe va bien fonctionner. Et sur ce côté-là, je pense que c'est un garçon aussi qui, lui, sait se mettre dans le collectif. C'est-à-dire qu'il va être la variante du collectif. En général, quand Dembélé est très bon, c'est que l'équipe est très bonne.
En fait, là, il y a un peu l'idée, Marc, que le Paris Saint-Germain a plus besoin d'un grand Dembélé que l'équipe de France, peut-être. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Moi, je mets les deux au même niveau. Je pense que l'équipe de France a autant besoin d'un bon Dembélé que le PSG. Attendez, on parle quand même du Ballon d'Or, ce qui est présenté comme le meilleur joueur de la saison au monde. Donc,
oui, mais dans un contexte particulier du Paris Saint-Germain, où il est le joueur important, mais qui dépasse très peu.
Je rappelle, il est dans l'axe du 4-3-3 au Paris Saint-Germain, et là plutôt, il revient dans l'axe du 4-2-3-1
ou à droite de l'équipe de France. Si tu regardes l'étranger et que tu fais le discours qu'on est en train de faire en ce moment, les étrangers vont te dire, mais attendez, vous avez le meilleur joueur du monde de la saison. C'est un atout considérable pour être champion du monde. Donc, pour moi, on a besoin d'un grand Dembélé, comme on a besoin d'un grand Mbappé, comme on aura besoin de grands joueurs pendant toute la durée de ce tournoi.
Mais après, c'est un peu l'idée aussi de faire ce débat-là. Est-ce que c'est un garçon qui est sous pression, en fait, avant la Coupe du Monde? Est-ce que c'est un garçon?
Heureusement, ils sont tous sous pression.
Je pense qu'il s'est
amené à la pression. Oui, mais de par son statut, effectivement, du Ballon d'Or. Est-ce qu'il a montré plus? Est-ce qu'il a quelque chose à prouver? Parce que, comme on le disait, les stats sont pas à la hauteur, peut-être, pour l'équipe de France.
Il a rien à prouver, Dembélé, mais il a gagné.
Pascal.
Il doit gagner.
Mais en fait, Dembélé, il incarne véritablement, même s'il est Ballon d'Or, le collectif. Mm-hmm. Parce qu'il sert le collectif par ses courses à vide, par ses courses en profondeur. Il n'est pas tout le temps sûr de recevoir le ballon, mais il crée des brèches pour ses coéquipiers. Et puis, il a une attitude chaque fois qu'il est remplacé. Bon, elle est exceptionnelle, quoi. Il sort, il tape dans la main de son collègue qui va le remplacer. Bon, c'est quand même le Ballon d'Or. Et puis, il y a une concurrence malgré tout, parce que vous avez un quatuor en équipe de France qui semble être installé, mais vous avez d'autres joueurs à l'instar de Barcola qui peut très bien si jamais en cas de défaillance de Dembélé y compris, qui peut très bien prendre sa place ou alors Deschamps qui choisit de jouer à 3 au milieu.
Pascal, tu es en train d'expliquer que Barcola peut remplacer Dembélé, donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément
besoin.
Évidemment que c'est important, évidemment que Dembélé a un statut maintenant, mais quand tu as Barcola sur le banc, tu te dis Barcola peut le remplacer. Donc
c'est pas là pour Mbappé. Moi, c'est, je pense que c'est valable pour Mbappé. Ça sera pas le cas parce qu'il a un statut où c'est il est le capitaine.
Plus dur.
Mais tu peux sortir Mbappé et ça se verra pas pour autant. Hein. Parce que t'as du matos.
Non, en fait, c'est ça le truc. À partir du moment où t'as Mbappé dans l'équipe, forcément, le protagonisme attendu de Dembélé est pas aussi important. Si Mbappé était pas un titulaire indiscutable, on dirait oui, Dembélé, il doit briller autant qu'au Paris Saint-Germain.
Oui, et puis, je pense que Pascal, tu vas me rejoindre sur ce sujet-là. Si Dembélé est sorti parce qu'il est moins bon, parce que ça fera beaucoup moins de vagues et en interne et en externe que Mbappé. Donc c'est aussi, on parle souvent, bah oui, c'est ce qui fait que j'aime ce joueur, c'est que bah, quand il est moins bon, il est sorti, il l'accepte,
incarne le
collectif. Et il continue à injecter de l'énergie positive pour le groupe et pour l'équipe qui reste en place. C'est ça qui fait la différence entre un Mbappé ou un Dembélé. Faut pas les mettre face à face, pas du tout. Mais il faut juste expliquer que ce sont pas les mêmes garçons avec le même caractère, le même ego peut-être. Il y en a un qui est un facteur X. Qui est Mbappé, ouais. Et l'autre qui est un accélérateur de talent, qui est Dembélé, parce que quand ça va bien, il est souvent excellent.
Pas les mêmes caractéristiques de jeu aussi, mais peuvent être extrêmement complémentaires.
Tiens, vos messages sur WhatsApp, Martial, là, au 06 12 424 424, pas forcément besoin d'un grand Dembélé. Regardez les deux précédentes Coupes du Monde, il n'était pas titulaire indiscutable, et pourtant on a fait deux finales. C'est vrai qu'il y a beaucoup cette idée-là.
Il y avait
d'autres joueurs aussi.
Voilà. Il y a une autre idée aussi.
Et puis Chris qui me dit, journalement, ça existe, bande d'incultes. Ah bah, c'est pas sympa.
Il y a une autre idée. Il y a une autre idée aussi, et je sais que on va commencer les premiers matchs vont arriver, puis après très vite on va comparer les sélections. Quand tu prends Doué, Dembélé, Mbappé et Olise, aujourd'hui on dit souvent lesquels tu mettrais dans ton équipe. Bah je suis désolé, des quatre là,
tu les mets tous
dans toutes les sélections, ils les veulent.
Oui, évidemment. Donc,
soyons ravis d'avoir ces garçons là, et si en plus ils ont tous envie de jouer ensemble. Bah, ça va être très très fort.
En fait, là, on parle de la Coupe du Monde, on parle de l'équipe de France, mais on aime bien se torturer l'esprit.
Oui. Hein. On a peur, le premier match approche.
En fait, on a tellement de bon matériel.
Ben oui, qu'il faut qu'on trouve des trucs pour se dire attention.
Georges et Kylian, c'est des marioles aussi. Ouais.
Ils te posent des questions.
Il a pas tellement aimé le journellement que j'ai bien compris.
Et en plus, Pascal, ce sont des marioles journellement.
Ouais, c'est ça.
Bah oui.
Mais à coup de pas,
c'est récurrent.
Existe bien, effectivement, ça a été vérifié. Donc, mais à coup de pas, Pascal.
Non, mais c'est pas de problème. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui, grâce à moi.
Merci.
Quel professeur. C'est incroyable. On va voir si t'es à la hauteur maintenant dans les jeux de sport.
Semainement, c'était français dans les jeux.
Allez, on va pas jouer au Scrabble, mais au jeu du sport dans un instant. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport, tout de suite on joue.
RMC, les jeux du sport.
Allez, concentrez-vous les amis, l'œil du tigre. Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2. Vous défendez un auditeur. Répartition des équipes. Oh, c'est du classique. Pascal Duprat avec Marc Madio. Bah oui, bien sûr.
Bonne équipe.
C'est une équipe qui marche habituellement.
Ça veut dire quoi, que nous on est équipe pourrie, c'est ça que tu veux dire?
Ouais,
tu vas te calmer.
Non, mais ça commence à mettre l'ascendant psychologique. C'est l'ascendant psychologique. Mais
ça veut dire que l'équipe Pinovey, c'est l'équipe pourrie. Tout à fait. C'est bien
sûr. La pourrave team.
La pourrave, allez, j'accueille les auditeurs. Anthony et Florent. Salut, messieurs.
Salut. Bonjour Georges, bonjour Gégé.
Anthony, c'est toi qui as appelé en premier, je te laisse choisir ton équipe. Avec Pino Weiss ou Duprat Madio?
Avec Pascal et Marc.
Anthony, et comme ça, tranquille. Florent, donc
avec la confiance que tu nous accordes.
Florent, t'es avec Jérôme et Fred. Je rappelle que vous pouvez remporter un séjour dans l'un des 400 campings Homer aujourd'hui, et que la question impossible est activable par un des joueurs. Si je les ai préparés, ces questions impossibles, j'ai un doute. Oui, c'est bon. Allez, les GG, c'est parti. Question à une seule réponse. Je fais appel à votre mémoire. La Coupe du Monde a débuté cette semaine. Qui, lors de la dernière Coupe du Monde, a terminé 3e?
Croatie.
La Croatie, Marc Madio.
Bien, Marc.
Il est là. Marc, quand ça devient sérieux, il met les coudes sur la table. Il est avancé vers le micro. C'est une attitude, avant tout.
Coupez-lui le micro.
Question à une seule réponse. Attention, il y a peut-être un piège. En Formule 1, qui est le dernier Français à être monté sur un podium en Formule 1?
Gasly.
Pierre Gasly, après requalification, effectivement, course. Il a récupéré son podium. Attention, Marc Madio ne serait-il pas le Bennett de ce dimanche?
Là, il est chaud.
Il est chaud. Question auditeur, c'est pour vous, Anthony et Florent. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. Comme ça, je peux bien savoir qui a donné la réponse. C'est OK pour vous?
Okay.
Les gars, je vous pose la question. Dans quelle ville américaine se situe le camp de base de l'équipe de France à la Coupe
Boston,
du Monde?
Boston, Florent.
Allez, bien joué. Ça fait 2-1. Réduction de l'écart. Allez. Et non pas réduction du score. C'est que Jean-Michel Larquet est très attentif à ça à chaque fois. On ne dit pas réduction du score, réduction de l'écart.
Tu l'as, c'est là.
Question à une seule réponse, les amis. Quelle équipe affronte la Côte d'Ivoire?
L'Équateur.
Cette nuit à 1h du matin, Jérôme sera à l'écoute d'RMC. Peut-être en commentaire, du coup. On va y réfléchir. De partout. Tu ne t'entendais pas, celle-là. Question à plusieurs réponses possibles. Nous sommes en 2026.
Oui.
Qui a gagné le Tour de France il y a 40 ans? En 86.
Lemond.
Greg Lemond. 3-2.
Marc, sur les histoires là.
Greg Lemond.
Tu lui donner la réponse directe.
Ah, mais t'as pas fait de vélo toi?
En 86, mec, il était à peine né.
Ah, bah alors? C'est comme ça, il faut savoir. Allez, question auditeur, c'est pour vous, Anthony et Florent. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. Anthony et Florent, donnez-moi, s'il vous plaît, le nom d'un joueur qui dispute sa 6e Coupe du Monde.
Messi,
Florent, bien joué. 3-3.
Il y a aussi auditeur, hein, il est meilleur. Ouais,
Cristiano Ronaldo et Memo Ochoa. Allez, question élimination. Il y a 3-3. Pour 2 points, vous répondez à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé. Donnez-moi, s'il vous plaît, GG, les villes hautes des matchs de la Coupe du Monde actuellement. Les villes hautes, les villes où il y a des matchs de la Coupe du Monde. Je peux accepter la région parfois, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de me dire un truc. Non, mais parce que parfois, c'est, on a la zone. Marc.
Mexico,
évidemment, avec les stadios Azteca. Fred. Tu connais les villes des États-Unis quand même.
New York,
voilà. Même si c'est dans le New Jersey, j'accepte. Pascal.
Vancouver,
tout à fait. Il y a eu un match hier. Jérôme.
Los Angeles,
bien sûr, ça joue au SoFi Stadium, magnifique stade où c'est joué États-Unis, Paraguay. Marc.
Au hasard, Washington
n'accueille pas la Coupe du Monde. Éliminé. Non, il y a en revanche une compétition de MMA dans les jardins de Donald Trump aujourd'hui, au même moment où il est en train de gérer la paix dans le monde. Éliminé, Marc.
Boston,
bien sûr, Foxborough, le stade des Patriots en NFL. Pascal.
Les Bleus. Kansas City,
évidemment, où il y aura Algérie, Argentine à 3h du matin dans la nuit de mardi à mercredi. Jérôme. Qu'est-ce que j'étais?
Atlanta,
bien sûr, le stade couvert d'Atlanta. Bien sûr. Fred.
Philadelphia,
bien sûr, les Français vont jouer là-bas également. C'est le stade des. Les Eagles en NFL. Pascal.
Il y a deux autres au Mexique. Guadalajara.
J'accepte l'accent également. Guadalajara, ça marche. Effectivement. Jérôme, on cherche les villes hautes de la Coupe du Monde, là.
Toronto,
bien sûr. Le Canada a débuté sa Coupe du Monde face à la Bosnie. Fred, il en reste encore quelques-unes.
Hein. Miami,
bien sûr. Le Hard Rock Stadium. Pascal.
Seattle,
bien sûr, le Lumen Field des Seattle Seahawks. Jérôme, on cherche les villes hautes de la Coupe du Monde. Ouais, il en reste encore.
J'ai plus.
5.
Oui, je vois pas trop.
4. Il en reste 3.
C'est aux États-Unis.
3, 2, 1. Éliminé.
Utah. Comment?
Dans l'Utah, non? Dans l'Utah, non. J'ai bien tenté. Fred.
Dallas,
bien sûr, le stade des Cowboys. Il en reste 2.
Si je trouve, je ne trouverai pas.
5.
C'est où joue Gignac? Monterrey.
Il en reste 1. Fred, si tu le trouves, t'as gagné. Il en reste 1. 5.
Il reste 4. 5 sites en plus.
2. 1. 0. Est-ce que tu l'as, Pascal? Est-ce que tu as la dernière?
Est-ce qu'on a dit San Francisco?
San Francisco, Pascal!
Yes!
Bien sûr, sur le buzzer, il va offrir la victoire à l'équipe Madio Duprat. Bravo, Anthony.
Merci.
C'est toi qui remporte le séjour. Homer.
Non, mais il y avait 3 villes du Mexique. J'avais révisé, j'étais sûr qu'on était dans un truc là. La dernière semaine, j'avais déjà révisé ça.
Bravo.
Jouer sur RMC avec Homer. Des campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Homer. 400 campings, 400 raisons de revenir.
Vous avez tout trouvé. Je vous félicite. San Francisco, c'est trouvable. Hein. C'est là que hier, il y a eu Suisse.
Et moi, je pensais que ça avait été dit.
Mais moi, je pensais que voilà.
Et tu vas calmer, c'est bon. Tu vas pas comme ça. Bon, la coïncidence. Hein.
Le groupe Bibia, tu sais.
On tu vas vraiment se mettre sur un jour.
Je vous kiffe tous. Merci Fred Weiss.
Merci.
Bonne vacances. Oui. Merci Jérôme Pinault. Merci ciao. Marc Madio. Ciao, et merci ciao. Pascal Duprat. Tu restes avec nous pour les Paris RMC tout de suite. Tu restes avec nous.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.